Vous écoutez On lit pour vous.
Une tricherie aux fières racines québécoises. Invention du mulligan. Un texte d'Éric Martel, paru le 14 août 2025 dans la presse. Rarement aura-t-on vu une si grande fierté à contrevenir aux règles. Au Country Club de Montréal, on ne revendique pas seulement la création de Mulligan, cette deuxième chance permettant aux amateurs de s'humilier à nouveau et aux plus assidus de vivre dans le déni. On la célèbre. Le Mulligan est connu partout sur la planète golf. Il permet aux joueurs, lors de leur premier coup de la partie, de tenter un deuxième coup de départ en cas d'échec. Tout le monde connaît quelqu'un qui pousse le concept sur l'ensemble d'une partie, au coup d'approche, ou même sur les roulés. Eh bien, semble-t-il que ce concept, faussant la réalité sur les cartes de pointage et faisant rager les groupes attendant patiemment à l'arrière, ait été inventé au club de golf situé à Saint-Lambert, au milieu des années 1920. Peu de gens savent que ça a été créé ici. Je suis certain qu'il y a plusieurs amateurs de golf qui passent sur l'autoroute juste à côté et qui ignorent cette histoire, rappelle David-Étienne Bouchard, directeur du Country Club de Montréal. Route épuisante. L'accès au Country Club de Montréal est réservé à ses 750 membres. Vaut mieux sortir le chéquier pour y obtenir une adhésion. Dans le stationnement, on trouve des Audi, des Mercedes et même une Ferrari. À l'époque où le Mulligan avait été créé, vers 1920, rares étaient les propriétaires de voitures. David Bernard Mulligan en faisait partie. Vice-président et directeur général de l'hôtel Windsor à Montréal, l'Ontarien a possédé une puissante voiture de 4 cylindres et 33 chevaux. Comme il était le seul membre motorisé de son quatuor, il faisait office de conducteur désigné. Sur le pont Queen Victoria Jubilee, aujourd'hui connu sous le simple nom de Victoria, liait Montréal à la rive sud. L'emprunter s'avérait un chemin de croix. À l'époque, la chaussée n'était pas faite de béton, mais de morceaux de bois. Ceux-ci s'usaient rapidement et créaient des bosses. Comme la plupart des joueurs aujourd'hui, nos héros arrivaient à la hâte au premier départ. Secoué par la conduite difficile vers le club, David Mulligan était épuisé. Il mettait du temps à retrouver ses esprits. Si bien que son premier coup de la journée dérogeait souvent des standards auxquels il avait habitué ses camarades. Une bonne fois, Monsieur Mulligan en a eu assez. J'ai été tellement choqué de manquer mon coup de départ que je me suis penché pour poser une autre balle. Mes trois amis me regardaient perplexes, a-t-il raconté au journaliste Don McIntosh dans une chronique publiée vers 1950. Par indulgence, ou peut-être par crainte de devoir rentrer à pied, les trois golfeurs ont accepté la manœuvre de leur conducteur. Après cela, il est devenu une règle non écrite dans notre quatuor qu'il était possible de faire un coup supplémentaire au premier coup, a indiqué M. Mulligan en 1985. Manque d'entraînement. Près de 100 ans plus tard, le Mulligan fait partie intégrante de la plupart des parcours de golf. Comme c'est le cas des inventions les plus géniales, il y a encore des débats sur sa paternité. Le Canada et les États-Unis se disputent encore l'invention du téléphone. Les Warwickois et Drummondvillois s'époumoneront toujours au sujet de la poutine. Et le New Jersey réclame la création du Mulligan. Celui-ci aurait été inventé par John A. Buddy Mulligan, aussi au milieu des années 1930, à l'Essex Fells Country Club. Comme il était le seul employé du club, on raconte que M. Mulligan avait beaucoup de pain sur la planche. Rarement avait-il l'occasion d'exercer son élan. Étant donné son manque d'entraînement, le premier coup de Mulligan partait la plupart du temps en courbe et aboutissait dans les arbres. Ces ratés provoquaient les rires de ses partenaires, l'ancien joueur de la PGA Dave O'Connell et le journaliste Dave Sullivan. Écoutez, c'est une arnaque. Vous vous entraînez toute la matinée pendant que je travaille. Vous vous attendez à ce que je commence à froid avec rien de plus qu'un coup d'essai. Le moins que vous puissiez faire, bande de voleurs, c'est de me donner un autre coup pour que je n'aie pas à rebondir dans ces arbres chaque fois, aurait supplié à l'époque Mulligan, tel que l'a raconté Des Sullivan dans une chronique de l'époque que nous avons consultée. Après s'être accordé cette permission, Mulligan a commencé à en discuter avec les autres membres du club dans les vestiaires. Ils en riaient au début, mais graduellement, ils ont adopté l'idée de Mulligan, explique Des Sullivan. Voici donc l'histoire de l'Essex Fells Country Club. Le Country Club de Montréal la réfute. Plutôt que de régler ça au point, comme Happy Gilmore et Bob Barker, les deux établissements ont décidé de faire une trêve. À la place de faire la guerre, on a décidé de faire un tournoi dans nos clubs respectifs autour du Mulligan, année après année, de développer un partenariat. Finalement, la pandémie est arrivée, ça ne s'est jamais passé, raconte David-Étienne Bouchard. Même sans tournoi pour célébrer le Mulligan, le Country Club de Montréal honore quotidiennement son invention. Près du premier départ, une plaque inaugurée il y a 15 ans relate l'histoire de son fondateur présumé, David Bernard Mulligan. Gageons que plusieurs golfeurs se consolent en la regardant après un 18 trous horrible, en se rappelant que les coups manqués existent depuis plus d'une centaine d'années. Changer en mieux. Le 31 juillet, le Country Club de Montréal a célébré son 115e anniversaire. Il proclame être le plus ancien du Québec qui soit demeuré au même emplacement depuis sa création. Il s'agissait d'un terrain de polo avant d'être adapté au golf. À proximité, les chevaux des membres étaient hébergés et une grange abritait les moutons précurseurs des tondeuses à pelouse. Dès les premières années du club, plusieurs femmes étaient membres, une rareté à l'époque. On a trouvé d'anciens procès-verbaux qui prouvent qu'il y avait un comité de femmes très présent et dynamique dès les années 1910, explique M. Bouchard. Les droits des golfeuses étaient toutefois limités. Elles devaient notamment utiliser une entrée située sur le côté du chalet principal, en plus d'être exclues de certains événements au bar de l'établissement. C'était une tricherie aux fières racines québécoises, invention du Mulligan, un texte d'Éric Martel paru le 14 août 2025 dans La Presse.
La nostalgie des sons, Madeleine de Proust, sonore. Un texte de Marissa Grosguet, paru le 6 juillet 2025 dans La Presse. Les souvenirs peuvent être liés de manière très profonde aux sons, à ceux qu'on n'entend plus aujourd'hui et qui nous renvoient à des moments du passé. La presse s'est interrogée sur l'effet nostalgique de ces Madeleine de Proust sonores. Bruit de télécopieur, de téléphone à roulette, de cassette qu'on rembobine. Des sons partent, d'autres arrivent dans notre quotidien au fil des innovations. L'avancement technologique, la belle fautive, n'est pas que synonyme de rapidité d'opération ou de design plus fin. Il range chaque fois dans le passé plusieurs sons et crée de la nostalgie. Les sons disparaissent de plus en plus. Je me rappelle encore de nombreux bruits du passé qui n'existent plus, témoigne Dominique Derrier, expert en cybersécurité qui travaille en informatique depuis plus de 25 ans. Pour lui, la nostalgie est probablement due au fait de sentir les mécanismes de nos objets s'activer sous nos doigts notamment par le signal des sons qu'ils émettent. Tout était très mécanique, poursuit-il. Pour les ordinateurs, il y avait des interrupteurs sur lesquels il fallait appuyer. On entendait les tubes cathodiques chauffer en s'allumant, les ventilateurs qui tournaient pendant l'utilisation. Les claquements des claviers étaient aussi plus sonores, car ils activaient les interrupteurs en dessous. Le lecteur de disquette émettait un bruit de moteur, un petit ronflement. Tout ça s'est perdu tranquillement avec la modernisation, dit Dominique Derrier. On ne veut plus que ça fasse du bruit. On s'arrange pour qu'il y en ait de moins en moins. Et il n'y a plus de partie mécanique à l'intérieur de nos objets. L'expert se demande si c'est pour amenuiser les bruits que l'on a diminué les mécaniques ou le contraire. C'est la question de la poule ou de l'œuf, dit-il. Mais dans tous les cas, on a fiabilisé les outils en enlevant la partie mécanique. Moins de choses s'abîment ou tombent en panne. Et puis, dit-il, il est plus agréable d'utiliser nos outils sans qu'un son trop intense nous incommode. Il y a toutefois des preuves concrètes de la nostalgie ambiante, ajoute Dominique Derrier. Comme ces internautes qui déposent sur YouTube des pièces de musique qu'ils ont inventées en assemblant des sons de composants informatiques de notre passé. Souvenirs positifs et négatifs. Selon Isabelle Peretz, professeure de psychologie de l'Université de Montréal, spécialisée en neuropsychologie cognitive, il existe des Madeleines de Proust, mais sonores, soit des déclencheurs de souvenirs chargés d'émotions positives et négatives. Comme des bruits familiers de la maison, dans notre enfance, quand on revenait de l'école, la télé avec les dessins animés, la préparation d'une collation avant les devoirs. De plus en plus, on a affaire à des sons artificiels, souligne l'experte. On peut toutefois penser que les sons biologiques de la nature sont encore plus importants. Mais on peut associer des bruits artificiels à des événements agréables. Ou négatifs, évidemment. Une personne qui a été exposée à la guerre pourrait être très troublé par un son qui ressemble à celui d'une explosion, qui lui évoquerait des souvenirs traumatisants. L'ouïe aurait une importance majeure pour la réminiscence. Isabelle Peretz s'intéresse particulièrement à la cognition musicale. Des études montrent que les souvenirs associés à la musique sont souvent bien plus intenses que ceux que l'on pourrait provoquer avec un repas, par exemple. Si notre exercice se concentre principalement sur les bruits que des objets technologiques de notre passé nous évoquent, comme souvenirs, pour la spécialiste, il y a encore plus de mémoire liée à des sons naturels, comme celui de l'orage, qui réveille des émotions très fortes chez les enfants. Mais au-delà de l'ouïe, ce sont probablement les odeurs qui réveilleraient chez les humains les souvenirs les plus vifs. C'est très primitif, très émotionnel. C'est quelque chose que l'on partage avec les animaux, évoque Isabelle Peretz. La spécialiste croit également qu'il y a des différences individuelles. Pour certains, l'évocation d'un souvenir ou d'une émotion liée à des sons pourrait être bien plus forte, par exemple pour des individus sur le spectre de l'autisme qui peuvent avoir une mémoire très, très vive d'un événement sonore positif ou négatif. C'était « La nostalgie des sons, Madeleine de Proust sonore ». Un texte de Marissa Grosguet, paru le 6 juillet 2025 dans La Presse.
À Los Angeles, des petits commerces en crise après les opérations anti-migrants. Un texte de Paula Ramon de l'agence France-Presse paru le 11 juillet 2025 dans Le Devoir. À l'heure du déjeuner, Naomi Mendoza avait l'habitude de voir ses clients faire la queue devant son restaurant de Los Angeles. Mais depuis les opérations anti-immigration de l'administration Trump, ses tables sont désespérément vides. « Nos ventes ont chuté de 80 %, affirme la restauratrice à la tête du Cuernavaca's Grill, restaurant mexicain coloré dans le Fashion District, quartier dynamique et commerçant de Los Angeles. « Ce qui nous sauve, c'est que nous avons beaucoup de livraisons à domicile, soit les autres 20 %, et nous avons beaucoup de livraisons à domicile car beaucoup de nos voisins ont peur de sortir », ajoute-t-elle. Ce quartier d'ordinaire animé s'est transformé en ville fantôme après les descentes d'agents fédéraux de la police de l'immigration, ICE, dans des usines et commerces de la ville. Depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2025, le président américain Donald Trump a fait de la lutte contre l'immigration clandestine une priorité absolue, évoquant une invasion des États-Unis par des « criminels venus de l'étranger » et communiquant abondamment sur les expulsions d'immigrés. Un tiers de la population de Los Angeles est d'origine étrangère, et la ville compte des centaines de milliers de sans-papiers, selon des estimations. C'est peut-être une des raisons qui ont poussé les habitants à manifester le mois dernier contre les opérations anti-migrants menées par ICE. Le gouvernement fédéral a accusé les autorités de Los Angeles, une ville dite « sanctuaire » pour les migrants, d'avoir encouragé les heurts lors de ces manifestations d'opposition aux raids musclés menés par les agents de ICE contre des immigrés clandestins. Pire que la pandémie. Engagé dans un bras de fer, le gouvernement Trump ne semble pas vouloir faire marche arrière. Il vaut mieux s'habituer à nous maintenant, car cela va devenir la normalité très vite. Nous irons partout quand nous le voulons à Los Angeles, a déclaré sur la chaîne Fox News Gregory Bovino du service des douanes et de la protection des frontières, CBP. Le gouvernement fédéral ne partira pas de Los Angeles, a-t-il ajouté. Naomi Mendoza maintient, elle, que ces descentes n'affectent pas seulement les étrangers ou les sans-papiers, mais également toute une industrie. L'année avait déjà mal commencé pour les commerces de la mégapole dévastée par des feux de forêt en janvier 2025. Faute de clients, la restauratrice va fermer boutique à 15 heures, une situation bien différente de l'année précédente quand elle pouvait parfois servir jusqu'à tard dans la journée. C'est probablement pire que durant la pandémie de COVID-19, confie-t-elle. Dans une rue voisine, Manuel Suarez, qui vend des jouets dans une petite échoppe, confirme. En ce moment, c'est pire, car pendant la pandémie, même si c'était une pandémie, on vendait, ajoute celui qui travaille depuis 35 ans dans ce quartier. Là, nous sommes totalement en crise. Selon lui, beaucoup de commerçants ont fermé leurs boutiques préventivement à mesure que les descentes anti-migrants s'intensifiaient. D'autres ont licencié des employés après un fort recul de leurs ventes. Au chat et à la souris, les gens ont peur de venir, et s'ils viennent, ils ciblent une boutique en particulier pour faire ce qu'ils ont à faire et après rentrent chez eux, explique Rosé Riern, gérante d'Anita's Bridal, spécialisée dans les robes de soirée. Dans le quartier, les commerçants assurent que la peur est partout. Ils communiquent entre eux à l'aide de talkie-walkie et préviennent du passage d'un hélicoptère ou de l'arrivée d'agents en uniforme. Certains surveillent aussi la rue, juchés sur les toits, alertant leurs voisins de l'arrivée d'agents fédéraux en criant « la migra », surnom donné aux membres de ICE. C'est malheureux que le gouvernement ne comprenne pas que quand on nous attaque, on est tous perdants, déclare un vendeur qui n'a pas voulu donner son nom. Mais nous n'allons pas partir. Ce qui va se passer, c'est qu'on va jouer au chat et à la souris. On verra bien qui se fatiguera en premier. C'était à Los Angeles, des petits commerces en crise après les opérations anti-migrants. Un texte de Paula Ramon de l'agence France-Presse paru le 11 juillet 2025 dans Le Devoir.
Le melon de Montréal reprend vie, un texte de Daniel Bonneau, paru le 30 août 2025 dans La Presse. L'espoir de faire renaître le fameux melon de Montréal est bien vivant sur le site de l'ancien hippodrome Blue Bonnets, près des terres où il était autrefois cultivé, sur les flancs du Mont-Royal. L'opération est délicate, surtout avec les marmottes qui rôdent autour des plants. Pour augmenter les chances de succès, le célèbre fruit est traité avec presque tous les égards qui lui sont dus. Je n'ai pas le temps de tourner les melons aux deux jours pour qu'ils soient parfaitement ronds, comme les agriculteurs le faisaient autrefois, avoue en riant Justine Sénéchal, chargée de projets en production agricole chez Multicaf, dont la microferme Les Bonnets Bleus en est à la deuxième année d'activité. J'y fais attention, mais le goût est plus important que l'esthétique. La saveur distincte du melon de Montréal, fondant dans la bouche, est en effet ce qui en a fait la renommée, lui ouvrant les portes des restaurants de chic hôtels à Montréal, Boston et New York, où chaque tranche valait son pesant d'or. Les fruits étaient si spéciaux qu'au début du XXe siècle, un ami du roi Édouard VII, en visite à Montréal, en a fait expédier par bateau en Angleterre pour les offrir aux souverains. Notamment cultivés par les familles Descari, Gorman, Daou, roi et cardinal, dans les secteurs de Notre-Dame-de-Grâce, Outremont, Mont-Royal et Côte-des-Neiges, il a été mis de côté à la fin des années 1940, victime de l'urbanisation. L'organisme communautaire Multicaf, en collaboration avec la Société d'histoire, souvenirs et mémoire de Côte-des-Neiges, cherche à lui redonner ses lettres de noblesse en mettant la population à contribution. Un rêve qui se réalise. La légende du melon de Montréal a marqué les esprits de nombreux Montréalais qui, comme Pierre Cardinal, ont toujours souhaité y goûter. Le melon de Montréal est mêlé à mes souvenirs d'enfance, explique M. Cardinal, dont le grand-père, le grand-oncle et l'arrière-grand-père ont fait fortune en cultivant le fameux melon dans Côte-des-Neiges à partir de 1917. C'est devenu le symbole d'un âge d'or révolu pour ma famille, qui était très prospère et a tout perdu pendant le krach boursier de 1929. Mon père, qui a grandi sur la ferme familiale, n'a jamais oublié le melon et m'en parlait comme d'une merveille. Quand j'ai grandi, dans les années 1960, on n'en cultivait plus à Montréal. C'était mon rêve d'y goûter. Il en a souvent parlé à Jonathan Buisson, président de la Société d'histoire, souvenirs et mémoires de Côte-des-Neiges, qui a soumis un projet à Multicaf lorsqu'un hectare lui a été confié sur le terrain de l'ancien hippodrome. Notre mission est de mettre en valeur l'histoire du quartier pour éviter qu'elle soit oubliée, souligne Jonathan Buisson. Le melon intéresse beaucoup de gens. C'est le meilleur levier pour attirer du monde et susciter de l'intérêt pour l'histoire de Côte-des-Neiges. Le melon de Montréal a eu de nombreux alliés au cours des dernières décennies qui ont veillé à ce qu'il ne disparaisse pas. Au début des années 90, le journaliste du quotidien The Gazette, Mark Abley, s'y est intéressé et a retrouvé un sachet d'anciennes semences dans une banque de préservation en Iowa. Bernard Lavallée, connu sous le nom du nutritionniste urbain, a plus récemment contribué à relancer la culture du fruit mythique en lui consacrant un livre, Le petit guide illustré du melon de Montréal, vendu dans un coffret avec un sachet de semences. La culture du melon de Montréal représente un défi, constate Justine Sénéchal. Les fruits sont fragiles et n'ont pas tous le même goût. La génétique du melon de Montréal est encore faible, dit-elle. Le but est de sélectionner les meilleurs melons d'année en année pour se rapprocher le plus de la description qui en était faite. Pierre Cardinal est notre goûteur en chef. Au printemps 2024, l'équipe de Multicaf s'est approvisionnée auprès de Semences Terre Promise pour effectuer ses premiers semis. La population a été conviée à les planter en pleine terre, au printemps, puis à y goûter à la fin d'août. Le projet a pris tout son sens lors de la dégustation, souligne Justine Sénéchal. Multicaf est un organisme ancré dans la communauté. Des gens de tous les horizons sont venus. Il y a eu un échange intergénérationnel. Gilles Descaries est l'un de ceux qui ont participé à l'expérience. Il faut dire que tout ce qui concerne le melon de Montréal l'intéresse. Il le cultive lui-même depuis l'an dernier pour faire revivre, en quelque sorte, l'histoire de sa famille. Lié de près à l'époque de gloire du fameux melon à la chair verte. Il ne reste pas grand souvenir de mes ancêtres, à part le boulevard Descaries, déplore-t-il. Le regain d'intérêt pour le melon de Montréal fait vivre un peu l'héritage des Descaries qui, avec les Leduc, ont été parmi les premiers colons à Montréal, nous apprend-il. Multicaf et la Société d'histoire Souvenirs et mémoires de Côte-des-Neiges invitent le public à une séance de dégustation le 18 septembre de 13h à 14h à la microferme Les Bonnets Bleus. Les participants contribueront à la suite de l'aventure du fameux melon de Montréal. C'était Le melon de Montréal reprend vie, un texte de Daniel Bonneau, paru le 30 août 2025 dans la presse.